À ce moment du culte, nous avons une vidéo que nous voulons balancer qui va directement introduire notre prédicateur du jour.
Alors aujourd'hui, nous avons débuté notre série Good News, Bonne Nouvelle à Barry Njema. Alors vous allez juste nous dire ce qui vous a béni pendant le culte d'aujourd'hui.
Oui, ce qui m'a béni, premièrement, dans les Good News, c'est lorsqu'on nous a prêché la croix. On nous a donné le message de la croix. Que si nous rentrons plus dans les détails dans ce message-là, on risque de se perdre. C'est pour cela qu'il faut croire et augmenter plus la foi et aller propager ce message. Ça m'a vraiment beaucoup béni lorsqu'on nous a démontré comme quoi les démonstrations qui existent à travers le message de la croix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est comme le vent qu'on voit souffler et on constate que ses effets. Et donc c'est ça ce qui m'a béni comme message.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On veut juste savoir ce qui vous a béni pendant les cultes d'aujourd'hui. Si c'est les chants, si c'est l'adoration, si c'est la prédication, peu importe.
C'est les chants, madame.
Les chants vous a béni. La louange, l'adoration.
L'adoration est pour les messieurs qui s'appellent Daniel.
La dernière chanson.
La dernière chanson.
Ah, c'est Daniel.
Vous connaissez la chanson?
Non, on n'a pas capté, mais ça nous a fait.
On a été tellement béni.
Ce qui m'a béni, c'est par rapport à la prédication où on nous a dit que nous ne savons pas quand est-ce que nous commençons la vie. Et c'est grâce à ça que Jésus nous a sauvés. Nous ne savons pas les jours où nous avons été sauvés, où le Saint-Esprit est arrivé sur nous, mais Jésus nous a déjà libérés et nous sommes bénis par... J'ai été tellement béni par ça parce que c'est grâce à Jésus si nous sommes là.
Oui, j'ai été tellement béni d'abord, premièrement, par l'enseignement du jour. Ça m'a beaucoup béni, mais aussi la louange et l'adoration. Oui.
Et en tout cas, moi aujourd'hui d'abord, en tout cas vraiment, ça n'a ni me barricu à ça. Alors, c'est pour cela que je mérite d'être invité aussi la semaine prochaine, pour le dimanche prochain. Ça sera tellement waouh.
Wow, c'est 11h30.
Ouais, c'est 11h30. Soyez déjà là. Ukichelewa, unajikose.
Seigneur, tu es bon. Et tu nous arrives au moment convenable. C'est le moment qu'il nous faut pour écouter ta parole. C'est le moment qu'il nous faut pour réfléchir sur la bonne nouvelle que nous avons reçue par notre Seigneur lui-même, qui s'est révélé en plusieurs, depuis les apôtres jusqu'à ceux-là qui nous ont parlé de toi. Bénis ce moment, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous. Fais de ce moment inoubliable pour quelqu'un en ce lieu. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mettons-nous en disant good news à celui qui est à côté de nous parce que nous continuons avec la deuxième leçon de good news. Bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui est tirée de Matthieu chapitre 12, le verset 38
en 41. Et puis Matthieu du chapitre 16, nous allons prendre le premier verset au quatrième. Et puis Marc chapitre 8, du verset 11 à 13. C'est le texte qui reprend la même chose et on va découvrir pourquoi on revient à la même chose. Matthieu 12, 38. Alors quelqu'un de scribes et de pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Parole du Seigneur. Matthieu 16. On tourne quelques pages au page 16, le premier verset au quatrième. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. » Marc, chapitre 8. Nous allons voir comment Marc parle de cela aussi. Marc, chapitre 8, du 11e au 13e verset. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, et dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Le dimanche passé, nous avons parlé de la bonne nouvelle. Et nous avons dit que la bonne nouvelle nous parle des souffrances, de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons dit que, selon les enseignements que nous avons déjà suivis ici, quand nous enseignons sur la croix, nous ne regardons pas seulement Golgotha, parce que la croix de Jésus est plantée depuis l'annonce de sa naissance dans des situations difficiles et toutes les questions difficiles qu'il a connues pendant sa vie, c'est la croix. La croix de Jésus n'est pas plantée seulement à Golgotha, elle est plantée partout dans son ministère. Et donc, lorsqu'on vous demande d'aller enseigner sur la croix, il ne faut pas seulement regarder Golgotha, il faut voir tout le ministère de Jésus-Christ. Et alors, au dimanche passé, nous avons dit que lorsque nous allons annoncer sur la croix le message de la croix, que 1 Corinthiens appelle le message de la folie, nous avons dit qu'il y a 2 éléments qui font de ce message la folie. Et dimanche passé, nous avons développé le fait que ceux à qui nous annonçons le message de la croix entendent une démonstration scientifique. Ils entendent des évidences. Or, les 2 exemples que nous avons pris dimanche passé nous ont montré que nous ne saurons pas apporter une démonstration à ce que nous annonçons. Le premier, c'était le jour même que l'ange a annoncé le message à Marie. Marie n'a pas compris ce qui va se passer. Et elle a posé la question, mais comment cela se passera-t-il? Parce que je suis vierge et je n'ai pas d'homme. Marie attendait une démonstration. Mais la réponse qu'on lui a dit, c'est que l'ange le couvrira. Elle sera couverte d'une ombre. Et donc, déjà à partir de ce moment-là, Marie ne pouvait pas comprendre comment ça se passera. Et lorsque la grossesse a commencé, elle ne sait pas. Donc, il n'y a pas de démonstration qu'on peut faire. C'est pourquoi Marie a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Pas de démonstration, vous ne saurez pas démontrer. Le deuxième exemple que nous avons donné dimanche passé, c'est celui de Nicodème. On demande à Nicodème de naître de nouveau. Et déjà, ça dépasse la réflexion de tout un docteur la loi. Il pose la question à Jésus, « Veux-tu dire que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et puis naître de nouveau ?» Et le Seigneur lui a dit, « Ce qui est de la chair est chair. » Mais ici, je vous parle des choses spirituelles et puis des choses que j'ai vues. Alors, il lui dit, « Nicodème, tu dois naître de l'eau. » Et je vous ai dit que de l'eau, ça signifie c'est la parole. Et on peut savoir quand est-ce qu'on a écouté la parole. Mais quand on vous dit que vous allez naître de l'esprit, ça devient complexe. Vous ne savez même pas quand vous naissez de l'esprit. C'est là donc que j'ai donné l'exemple même de la grossesse naturelle biologique pour laquelle celles qui portent la grossesse, les mamans, ne savent jamais quand la vie commence. Elles peuvent savoir que la vie a commencé parce qu'il y a des effets, parce qu'elle peut vomir, parce qu'elle peut se sentir fatiguée, parce qu'elle peut avoir des malaises. Et donc, c'est de cette manière que nous naissons spirituellement. Nous pouvons savoir lorsque nous recevons la parole. Et je crois que c'est sur les dates-là que nous écrivons comme date de nouvelle naissance. Mais le moment où nous sommes nés par l'Esprit, souvent nous ne savons pas et nous ne saurons pas démontrer, mais nous pouvons montrer les œuvres. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de la question de ceux-là à qui nous annoncerons la parole et vont nous demander les miracles. Il faut dire, faites des miracles. C'est la même question qu'on a posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu que c'est plaisir, et je n'ai pas lu tous les textes. Je lis tout simplement trois. Il y en a plein dans le Nouveau Testament. Vous amenez le message de la croix. On vous dit, mais comment je vais croire à ce que tu as dit? Fais un peu un miracle. Et à cette question, partout où vous la trouverez dans la Sainte Écriture, le Seigneur a apporté aussi une même réponse. Il a dit, cette génération adultère est méchante. On ne lui donnera pas de miracle, sauf le miracle de Jonas. D'abord, Jésus a montré qu'il connaissait l'histoire de ce peuple. Parce que l'histoire de Jonas était racontée en Israël. C'était connu. Et donc, Jésus n'est pas parvenu. Il peut parler de ce qu'il connaisse. Mais aussi, l'histoire de Jonas résume son histoire. Parce que Jonas a été avalé par un gros poisson et il en fait combien de jours? 3 jours. Dans le ventre, je ne connais pas l'anatomie du poisson, s'il était dans l'estomac ou dans les intestins, je ne sais pas. Mais il était dans le ventre du poisson, 3 jours. Et nous lisons cette histoire que 3 jours après, le poisson est venu vomir Jonas à la plage ou au bord de la mer, je ne sais pas, mais à l'extérieur de la rivière. Et Jésus dit, on ne vous donnera plus un autre miracle. Vous qui réclamez le miracle, le seul miracle que vous aurez, c'est celui de Jonas. Parce que Jonas, 3 jours après, il a fait une prédication et la Bible dit que tout Ninive a cru à ce que Jonas a enseigné. Et la colère de Dieu n'est plus descendue sur Ninive. Alors, de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre, Et après 3 jours, la terre va les vomir, comme le poisson a vomi Jonas. Et il va prêcher le message de la croix, qui nous est demandé d'aller le prêcher partout où nous sommes. Alors la question est celle-ci. Est-ce que le peuple va croire à ce message comme les gens de Ninive? C'est ça, en fait, la question que Jésus se pose. Le peuple de Ninive a crié au message de celui qui est ressuscité du poisson. Est-ce que ce peuple va croire en ce miracle, celui de faire 3 jours dans l'essai de la terre et ressusciter et annoncer le message de la croix? Alors Jésus dit, on ne vous donnera pas un autre miracle, sauf celui de Jonas. Ce message s'adresse à nous, en fait, parce que nous savons que ce miracle a déjà eu lieu. Notre Seigneur a fait 3 jours dans l'enceinte de la terre. Et la terre n'était pas à mesure de garder le Seigneur. C'est ce que nous avons toujours chanté. Et la terre n'était pas à mesure de garder le Seigneur en son sein. Et la terre a vomi notre Seigneur. Et le Seigneur nous a envoyé avec le message, dit, allez dire aux gens de Ninive, c'est nous, allez dire aux gens de Ninive que je viens d'être vomi par un poisson. 3 jours après, voici le message. J'ai souffert, j'ai été crucifié, et me voici, je raconte le merveille de Dieu. Allons-nous croire à ce message, parce que c'est le seul miracle que le Seigneur nous promet. Pourquoi Jésus s'oppose aux demandeurs de miracles? Je vous dis que partout vous allez lire, il s'oppose, il ne fait pas, il refuse. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a là où il se fâche et là où il quitte directement. Là, il prend directement le bateau et il s'éloigne, c'est-à-dire il dépasse la mer. Il ne veut pas répondre à la question de celui qui demande un miracle additionnel. Et puis un miracle additionnel pour qu'on puisse croire à lui. Je crois que c'est là qu'il y a effectivement un problème. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et ces gens qui demandent des miracles ont vu ces miracles. Mais ils demandent un miracle additionnel. Alors Jésus dit, on ne vous fera plus un autre. Il n'y a que seul. Ce miracle-là, lorsque vous lisez Marc, là où nous avons lu, vous donnez en fait raison à Jésus lui-même. Parce que quand vous lisez le premier verset du chapitre 8, c'est le jour où Jésus a fait la multiplication du pain et du poisson. Et ce jour-là, il a fait la nourriture à plus de 4000 personnes. Ils ont vu. Ils étaient présents. Ils ont été témoins. La Bible dit qu'il a pris la barque, il est allé de l'autre côté de la mer. Et là, on lui pose la question de donner un miracle additionnel. En fait, Jésus se pose la question. Donc, ces gens n'ont pas vu ce que j'ai fait de l'autre côté. Ils veulent en voir un miracle additionnel. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Il faut se poser la question de savoir si parmi nous, dans nos groupes, dans notre paroisse, dans nos quartiers, nous n'avons pas de personnes semblables à ceux-ci. Est-ce qu'ils ne sont pas à Goma? Est-ce que Jésus ne parle pas à nous? Est-ce que nous ne voyons pas de miracles? Pour qu'on demande un miracle additionnel, pour croire qu'il y a un Dieu. Réfléchissons d'abord. Essayons de réfléchir sur Goma. Goma est asphyxié. Goma est entouré. Ça fait combien d'années? Plus d'une année, hein? Ouais. Bon, je sais que c'est grave. Je ne sais pas si on peut dire que c'est trop grave. Si nous commençons par nous qui sommes ici, qui n'a pas mangé? Je suis sûr que nous avons mangé. Et hier, nous avons mangé. À moins qu'il y ait quelqu'un qui dise, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Je sais effectivement que le prix a doublé, triplé au marché. Donc, ici à Goma, nous sommes parmi ceux qui voient le miracle chaque jour. Nous sommes en insécurité. Si nous racontons ce qui s'est passé la semaine passée, ailleurs, c'est l'insécurité totale. Je sais qu'il y en a même ceux qui appellent l'heure ici pour dire « Qu'est-ce que vous faites à Goma ?» Moi, j'en ai connu. Je travaillais avec un frère et sa famille a suivi à BBC ce qui se passe à Goma. Et on l'a appelé pour dire « Tu veux être martyr ou c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais encore à Goma ?» C'est donc grave. Mais si nous sommes là, ici, présents, c'est un miracle. Un miracle tout fait pour que nous soyons vivants. Et donc, l'incrédulité signifie que vous voyez des miracles se passer, mais vous demandez un miracle additionnel pour que vous puissiez croire que Dieu existe. Et Jésus dit, on ne vous donnera plus un autre miracle. Il y a un seul, c'est celui de la mort et de la résurrection. Je crois qu'ici, il y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de ce miracle. Le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus dit qu'il ne faut pas attendre un autre miracle. Celui-là suffit pour croire à lui. Et aussi, lorsque vous irez enseigner en Jean le message de la croix, celui-là suffit. Si on vous pose la question de faire un peu un miracle, il faut leur dire, je ne vous donnerai pas un autre miracle. Le seul miracle que je vais vous donner, c'est celui de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce miracle seul suffit pour que tu puisses croire. Ne creusez, mes frères et sœurs, pas la tête pour chercher à faire un miracle lorsque vous êtes désavoyés pour annoncer le message de la croix. Le miracle a déjà été donné, c'est celui de Jonas, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Si quelqu'un ne veut pas croire à ce miracle, il faut lui dire qu'on ne lui donnera plus un autre miracle. Celui-là suffit. Dieu voudrait avoir des personnes qui croient lorsque les choses sont vraiment simples, par un langage simple. Je vais vous donner deux choses que nous allons analyser avec vous et nous allons finir ce moment de réflexion. Nos amis des médias, vous me faites la première image sur le mage. C'est ce que nous lisons à Matthieu chapitre 2. Les mages sont venus d'où? De l'Orient. Ils ne sont pas des Juifs. Les mages ne sont pas juifs. Les mages ne sont pas chrétiens. Je voudrais être clair. Les mages sont des païens. Qui a enseigné aux mages que Jésus-Christ est né? Ce n'est pas connu. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous apprenons qu'ils ont vu l'étoile. Et puis l'étoile n'est pas le miracle pour les mages, parce que les mages sont des astrologues. Donc vous pouvez voir que sur la terre, il y a des personnes qui ont connu le Seigneur, pas parce qu'on les a envoyés des évangélistes, mais parce que le Seigneur lui-même s'est occupé d'eux pour les enseigner. L'histoire des mages crée une grande spéculation parce qu'il y a même des gens qui ont créé des noms pour les mages. Si vous lisez sur les mages, vous allez trouver il y a des personnes qui ont dit, bon, le premier s'appelait tel, le deuxième s'appelait tel, ainsi de suite. Mais les mages ne sont pas connus. C'est le Seigneur lui-même qui les a rencontrés. Cela veut dire qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, le 14, il y a des personnes qui croient au Seigneur parce que le Seigneur les a amenés à lui. Il y a des gens qui sont en train d'aller au ciel aujourd'hui, même peut-être à cet instant. Ils vont dans les royaumes. Ils n'ont pas rencontré l'évangéliste, ils n'ont pas pu de miracles. Le Seigneur les a attirés à lui. Maintenant, prenez le mage et comparez au scribe. Les scribes avaient toute l'histoire sur la naissance de Jésus. Nous lisons d'ailleurs dans cette histoire des mages que lorsque ils sont arrivés à Jérusalem et que l'étoile s'est cachée, ils sont allés chez le roi parce qu'ils pensaient que le roi était né chez le roi. Et la question a été posée aux scribes. Ils n'ont pas fait longtemps. Ils ont découvert directement, ils ont fait des recherches, ils ont découvert que le Messie va naître à Bethléem. Les mages n'ont pas de prophétie, ne connaissent rien. Ils ont seulement découvert quelque chose par leur recherche, des païens. Merci beaucoup pour l'image. Et alors là, nous allons faire la réflexion, c'est là. Les mages sont à Bethléem, dans un endroit où il y a toutes sortes d'odeurs, de la bouse, des urines, des animaux. Et ils trouvent Jésus où? Dans une étable. Est-ce que Jésus a déjà prêché? Aucune prédication. Est-ce qu'il a déjà fait quelques miracles? Non. Mais l'image là nous présente des gens qui se prosternent devant ce petit là qui n'a pas encore fait une prédication attrayante, hein? Sensationnelle, spectaculaire. Parce que nous sommes dans la génération où il faut une prédication spectaculaire pour croire. Sensationnel et un miracle. Mais là, il y a un petit enfant qui pleure, qui veut téter, qui n'a pas encore prêché, qui n'a fait aucun miracle. Et puis on se prosterne devant lui. Et on donne des cadeaux symboliques. Qui veut être le mage aujourd'hui? Qui croit sans miracle? Il croit tout simplement parce qu'il a écouté le message révélé par Dieu et ne pose pas la question. Ajoutez quand même un miracle pour croire. Jésus, faites quand même un miracle dans ton étable. Rien. Ce que Jésus peut demander, c'est qu'il veut téter. C'est tout. Il est totalement faible, petit enfant. Il ne peut être protégé que par Marie. Et Joseph. Seul celui qui connaît le miracle, c'est Marie. Parce que Marie peut déjà raconter le miracle de ce qui s'est passé. Mais les mages, le Seigneur cherche des personnes qui croient sans miracle. Parce qu'il n'y a qu'un seul miracle qui nous a été donné. Il s'est déjà passé. La mort et la résurrection de notre Seigneur. Jésus dit, et il insiste. À cette génération, on ne donnera plus un autre miracle. Niet. Seulement celui de Jonas. Il faut donc se poser cette question si vous êtes parmi la génération méchante ou la génération qui peut croire sans demander un miracle additionnel. Ça, c'est la première image. Mediant, vous pouvez me faire la deuxième image. Voilà, nous connaissons cette image. C'était un événement très important. Et beaucoup ont participé à cet événement. Mais là, nous parlons de ces deux personnes qui sont l'une à gauche, l'autre à droite. Ils sont, on dirait, les stars de l'événement avec Jésus. Ils vont bientôt mourir. Ils ont vu ce qui se passe, hein? Mais ils savent que quelqu'un parmi eux est plus grand qu'eux. Alors, écoutez les paroles de quelqu'un qui va bientôt mourir. Je ne sais pas si, peut-être que vous n'avez pas l'expérience d'avoir était gardien ou garde des malades qui va bientôt mourir. Quelqu'un a une expérience comme ça? Normalement, une personne qui va bientôt mourir ne devrait pas injurier. Vous avez déjà entendu que quelqu'un avant de mourir, il a injurié. Bon, vous n'avez pas l'expérience. Peut-être ceux qui ont gardé des malades peuvent nous dire. Un malade proche de la mort, est-ce que quelqu'un peut encore se sauver là-bas? Non. Mais si vous lisez le texte de Luc, je vais vous lire le texte de Luc, le chapitre 23, le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crées-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je connais des gens à qui on a annoncé l'évangile et ils ont dit, « Bon, je suis encore jeune, attendez d'abord. Quand je serai vieux, revenez encore et je vais directement croire. » Vous les trouverez quand vous annoncez l'évangile. Il y en a aussi d'autres qui disent, « Bon, moi, je ne peux pas croire maintenant. Quand je serai malade, proche de mourir, bon, vous pouvez maintenant venir annoncer l'évangile, je vais croire. » Bon, mais ici, nous avons affaire à quelqu'un qui va mourir. Mais il peut encore injurier. Il injurie quelqu'un avec qui on meurt. Donc, ne soyez pas surpris, vous les trouverez. Avant de mourir, il injurie. Avant de mourir, il parle mal. Et Jésus n'a rien dit. Mais écoutez la folie, la deuxième folie. L'autre reprend son collègue. Il dit, « Toi, tu ne crains pas. Celui-ci est innocent. Mais nous, nous sommes ici parce que nous avons fait des crimes. » Est-ce que vous voyez les conditions de Jésus? Est-ce qu'il y a un miracle là-bas? Ici, il y a quelqu'un qui pleure, qui est fouetté, qui est en train de faire ce dernier soupir. Est-ce qu'on peut encore lui demander secours à quelqu'un qui meurt? Je ne sais pas. C'est à celui-là que l'autre demande secours, à celui qui va mourir. Peut-être nous ici, si on demanderait à quelqu'un ici d'aller chercher celui qui peut l'aider, je doute que vous passerez aux soins intensifs pour dire, aux soins intensifs, il peut encore y avoir quelqu'un qui va m'aider. Ici, Jésus est aux soins intensifs à quelques minutes de la mort. Mais quelqu'un qui est à côté de lui dit, « Moi, Seigneur, il faut que tu te rappelles de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » C'est particulier, c'est différent. Et à celui-là, Jésus a répondu. À l'autre-là, Jésus n'a pas répondu. À celui qui injurie, on ne répond pas. À celui qui demande secours, on répond. On dit, aujourd'hui, vous êtes des évangélistes, je sais que vous avez appris et autre chose. Quand vous lisez ce texte, vous trouvez toutes les étapes de quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ. D'abord, il a reconnu qu'il est pécheur. N'est-ce pas? Il dit, nous, ici, nous sommes ici parce que nous avons péché. Il a reconnu ses torts. Il a reconnu que celui qui peut sauver, c'est celui qui est à la croix avec eux. Et il a demandé quoi? Le secours. C'est ce qu'on enseigne toujours. Quand tu veux aider quelqu'un à recevoir Jésus-Christ, il faut l'aider à connaître ses torts, ses péchés. Il faut l'aider à savoir que celui qui peut l'aider n'est Dieu autre que Jésus. Et il faut l'aider à demander pardon. Si tu l'aides à faire ces trois éléments-là, tu as aidé quelqu'un à recevoir Jésus-Christ. Et ça, on peut voir là-bas, à la croix. Il a dit, nous sommes ici parce que nous avons péché. Il a reconnu cet homme, ce que l'autre n'a pas reconnu. Et il a reconnu à celui qui est crucifié, qui va bientôt mourir, le salut. Et il a demandé, il a prié. Vous voyez dans quelle vitesse Jésus répond à celui qui demande pardon. Et Jésus a vite demandé, il a fait fi à celui qui a injurié. Il a vite répondu à celui qui demande pardon. Mais où est le miracle? En fait, c'est celui, l'autre là, qui a demandé le miracle, n'est-ce pas? Jésus, je crois qu'il a dit encore une fois à Silas, Niet, on ne te fera pas un autre miracle que celui de Jonas. À chaque fois que quelqu'un demande le miracle, Jésus ne répond pas. Il y a déjà un miracle. Le grand miracle, c'est celui-là de la mort et de la résurrection. Toute autre chose que nous recevons, ce sont des miracles additionnels que nous ne demandons pas parce que nous voulons croire, mais que nous demandons comme des fils dans le royaume qui appartiennent à la famille de Dieu. Et donc, frères et sœurs, n'entrez pas dans le piège de demander un miracle parce que vous voulez croire. On ne vous donnera plus un autre miracle. Parce que le miracle pour ceux qui veulent croire est déjà donné. C'est celui de la mort et la résurrection. Si vous êtes de Goma, ne demandez pas un miracle parce que vous voulez croire qu'il y a Dieu. Seigneur, je te demande de mettre fin à la guerre et puis on va croire que tu es Dieu. Non, non, il ne va pas répondre, il va se taire. Il faut seulement demander comme fils, Seigneur, qui connaît nos besoins et les souffrances que les enfants qui sont dans la famille sainte sont en train de traverser. Mais pas parce que lorsqu'il fera ce miracle, alors vous allez croire qu'il est le Messie. Vous entrez directement dans la catégorie de cette génération méchante, adultère, incrédule, aveugle, sourd, qui ne voit pas ce que le Seigneur est en train de faire. Bonne nouvelle, le Seigneur nous envoie et tout ce que nous faisons recours à l'Esprit. Nous ne serons jamais en mesure de démontrer ce que nous faisons. Si vous cherchez la démonstration, vous serez confus. Deux, ne soyez pas les affamés, insatiables des miracles pour croire. Mais vous les trouverez sur terrain, les deux catégories. Ceux qui disent, bon, on a compris ce que tu dis, mais est-ce que tu peux démontrer? Il faut lui dire, l'Esprit. L'Esprit descendra sur toi et tu seras enceinte. C'est ça? Bon, si Marie peut être en mesure d'expliquer ça, ok. Il a vu la démonstration. Et ceux qui diront, nous avons besoin de miracles, il faut leur répondre qu'on ne vous donnera pas un autre miracle que celui de Jonas. Celui de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Alléluia. Pouvons-nous encore une fois célébrer l'Éternel pour cette bonne nouvelle? Pouvons célébrer l'Éternel pour cette bonne nouvelle? Alléluia. Il dit que nous n'aurons pas d'autre miracle que celui de Jonas. Alléluia.